Merci Nicolas Balu. Prochain rendez-vous avec l'info à 15h.
Cette année-là, sur France Bleu Pays de Savoie, Sylvia Defierre.
Bienvenue dans cette année-là, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 18 décembre. Notre invité aujourd'hui est le photographe, humaniste, annécien, Olivier Folmy, qui vient de sortir un nouvel ouvrage sur l'Islande, le bal de l'univers, paru aux éditions de La Martinière. Grâce à sa formidable expérience de la photo et son approche altruiste des peuples isolés, Olivier Folmy est devenu la référence incontournable des photographes voyageurs. D'origine franco-suisse et italienne, il a grandi dans les Alpes où son penchant pour l'alpinisme l'a incité à partir en Himalaya dès l'âge de 17 ans pour devenir photographe d'expédition. Il a ensuite développé sa vocation de photographe humaniste auprès des villageois dans les vallées himalayennes de culture tibétaine. Son objectif est de transmettre un regard de beauté sur le monde. 33 ouvrages composent son œuvre, publiée à 1,5 million d'exemplaires, traduit en 9 langues. Olivier Folmy est notre invité cet après-midi jusqu'à 15h. Olivier Folmy, bonjour.
Bonjour Sylvia.
Merci d'être venu nous voir, d'autant que vous êtes quand même souvent par Mons et par Vaud. On peut le dire.
Je bouge beaucoup.
Combien de mois par an en voyage?
Ça dépend des projets. Les 10 dernières années, 20 jours par an à Annecy. Pas beaucoup.
C'est pas beaucoup, ouais. C'est important quand même ces 20 jours. C'est votre équilibre aussi de rentrer à la maison, de se poser chez soi.
20 jours, ça peut pas être un équilibre. C'est jamais assez. Mais bon, j'étais pris dans un projet. Il fallait jusqu'au bout. Il y avait un engagement avec l'éditeur, avec ce travail, avec Daniel, mon épouse. Et j'avais pas le choix. Mais 20 jours par an,
c'est trop peu.
Ça ne permet pas un équilibre. Non, bien sûr. Ouais.
C'est un déséquilibre qui vous convient quand même, alors?
Oh, la vie est un perpétuel déséquilibre. L'art, c'est de trouver l'équilibre dans le déséquilibre.
Allez, on va voyager un peu avec vous. Quels sont les derniers voyages en date? Faites-moi rêver un peu, Olivier.
Vous savez, j'ai passé 20 ans dans le monde himalayen. Donc, j'ai une partie de ma famille qui vient de là-haut. Donc, j'ai passé l'été dans le Zanskar avec mes enfants himalayens du Zanskar. Et après, je suis parti faire une petite virée en Afrique. L'année d'avant, j'étais au Cambodge, en Islande. Enfin, voilà, je cumule pas non plus les destinations. Simplement,
mais vous prenez le temps quand vous y allez?
Bah, ma vie, c'est mon voyage. Enfin, le voyage, c'est ma vie. Je vis de ça et en même temps, je me nourris de ça. Donc, je ne peux pas rester sédentaire. Je suis un nomade. J'ai besoin de bouger pour m'alimenter personnellement, spirituellement et professionnellement.
Alors, on va tâcher de découvrir votre parcours. En tout cas, on va dire quelques petits flashbacks de votre parcours, puisque c'est le principe de cette émission. On vous a demandé, comme à tous nos invités, de choisir deux années qui étaient pour vous des années importantes. Et puis, on va découvrir votre dernier livre qui vient de sortir, qui s'appelle Le bal de l'univers, qui est magnifique, qui nous propose un voyage en Islande. On en reparlera, d'autant qu'on l'offrira cet après-midi à nos auditeurs. On va démarrer tout de suite en musique avec Claude Nougaro et Armstrong. Et on se retrouve juste après, Olivier.
Merci.
France Bleu. Les plus belles chansons françaises.
Armstrong, je ne suis pas noir. Je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien de lui là-haut. Les anges, zéro. Je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid. Qui suis blanc de peau. Yeah. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. sur blanc, on voit surtout du rouge. Du rouge, sans, sans, sans prévenir, faut qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Que les tiens seront noirs, ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes.
Claude Nougaro, Armstrong sur France Bleu Pays de Savoie, 14h08.
Cette année-là, sur France Bleu Pays de Savoie, Sylvia De Pierre.
Le photographe Olivier Folmy est avec nous cet après-midi jusqu'à 15h. Alors Olivier, on vous présente souvent comme une référence incontournable des photographes voyageurs, humanistes de surplus, c'est quand même très flatteur. Ça vous va comme présentation ?
Oh, c'est toujours agréable. Enfin bon, faut relativiser. Des fois on me dit je suis un grand photographe. Je dis attention, moi je fais 1m73, je suis pas plus petit, je suis pas plus grand.
Un grand par le talent.
On a tous notre talent. Moi je, voilà, je m'exprime par la photographie. J'ai la chance, c'est vrai, d'avoir une facilité dans ce domaine. C'est ma manière de communiquer. C'est le reste, je peux pas faire. Je peux pas faire de musique. Je peux pas peindre. Je suis pas fort en maths. Voilà.
Chacun son truc.
J'ai la chance d'être photographe et de pouvoir m'en sortir avec ça, et de communiquer surtout avec ça.
Vous pensez que ça vient d'où, cet œil aiguisé que vous avez?
J'en sais rien. Je suis né avec ça. J'ai rien fait pour. Je l'ai cultivé quand même, parce que la photographie, c'est pas simplement d'avoir le monopole du bon regard.
Ça s'apprend, ça se travaille.
Ça se travaille. La sensibilité, c'est pas une question de professionnalisme. On a tous une sensibilité photographique ou artistique. On est tous des artistes potentiels. Peut-être d'autres plus que certains, plus que d'autres peut-être. Mais malgré tout, il n'y a pas un amateur ne fait pas du moins bon travail qu'un professionnel. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on est professionnel qu'on a une plus grande sensibilité. Et par contre, on a une plus grande maîtrise et même une plus grande compréhension du marché, quelque part, donc, et plus d'assiduité dans le travail. Donc une belle photo n'est pas faite par hasard, elle est le fruit d'un travail pour un professionnel. Mais par contre, c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on est meilleur qu'un amateur, rien à voir.
Quand vous regardez vos premières photos, les photos du début, que vous les regardez aujourd'hui, vous trouvez que votre travail a beaucoup évolué ou pas ?
J'espère bien, 30 ans quand même.
Mais est-ce que la vision est restée la même ?
Non, elle a évolué. Elle évolue constamment. Elle a démarré... Déjà, oui, j'aimerais vous raconter une histoire. Parce que c'est ce qui a démarré dans mon travail photographique. Et ça a lancé les bases de mon travail photographique. Donc ça me permet en tout cas d'expliquer tous ces 30 ans de photographie, dans quel esprit je l'ai fait. Je suis allé en Afghanistan. La première fois, j'avais 17 ans. Parce que j'étais montagnard par là autour, je voulais être guide de montagne. Des amis m'avaient proposé de me joindre à eux pour faire une expédition, faire un sommet en Afghanistan. Bon, ok, j'ai dit ok, j'y vais. Je commençais à potasser sur l'Afghanistan. J'étais encore au lycée à Saint-Julien.
Saint-Julien-en-Genevois.
Et l'Afghanistan m'a passionné. J'étais fait pour barouder. Et donc, j'ai eu la chance, parce qu'à cette époque, j'avais pas un sou, évidemment. Et en fait, j'ai eu la chance que cette année, le Rotary Club propose, du Rhône-Alpes, propose une bourse à un étudiant, une bourse de voyage. Évidemment, comme ça faisait 6 mois que je travaillais sur ce voyage en existence, j'ai eu cette bourse. Et grâce au Rotary Club de Saint-Julien et du Rhône-Alpes. Et donc, je suis parti faire la traversée de la piste du centre en Afghanistan. Avant cette expédition de montagne. Et pour faire cette traversée de la piste du centre, je voulais m'habiller comme un Afghan. Donc je suis arrivé à Kaboul, je suis allé dans le vieux bazar, et j'ai vu une échoppe de turban avec le marchand qui était sur son kilim en train de boire son thé beurré, son thé à la menthe. Et voilà, je choisis un turban, je suis venu vers cet homme, et je lui ai dit, voilà, je prends ce turban, combien il coûte, je vous l'achète. Et cet homme m'a regardé, il m'a dit, mais je te le vends pas, toi. Moi, j'avais 17 ans. Et je dis, pourquoi vous me le vendez pas? Ça me dépassait complètement. Et il me dit, mais tu me l'as pas marchandé, tu t'es pas assis, on n'a même pas discuté. Et là, je me suis senti tout petit. J'ai compris que finalement, j'avais grandi avec une culture qui avait ses codes, et que là, j'étais dans une autre culture qui avait d'autres codes, et que l'argent n'était pas intéressant pour cet homme. C'était un moyen de communiquer son échoppe. Vendre 5 turbans dans la journée ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était avoir le temps de parler avec ses clients.
D'échanger.
Et ça, cet homme a changé mon regard. Parce que après, toute ma vie, mon travail photographique, la seule raison de photographier, c'était d'échanger, de passer du temps avec les gens. Et donc c'est pour ça que je travaille sur pied avec mes photos. Toutes mes photos, tous mes portraits sont faits sur pied. Parce que ça me permet de parler, de prendre du temps avec les gens.
Encore plus quand on photographie évidemment des humains, puisque c'est quand même, ça a été aussi des portraits que vous avez souhaité faire, hein, d'aller à la rencontre de peuples isolés dans le monde entier. Et quand on rencontre des gens, évidemment parfois on le voit faire, hein, c'est assez brutal, les gens arrivent avec leur appareil photo et vont même parfois jusqu'à voler les photos. J'imagine que vous êtes bien à l'inverse de cette démarche-là.
Je suis différent. En tout cas, je ne suis pas ça. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le résultat. La photo ne m'intéresse pas. Le résultat, jamais j'ai eu le cœur qui bat sur une table lumineuse à me dire « j'espère qu'elle est réussie ». Non, ce qui est réussi, c'est la rencontre. Au moment même, d'appuyer sur l'appareil, d'appuyer sur le déclencheur, c'est clore l'histoire de la rencontre. C'est pour moi une forme d'apothéose de la rencontre, mais après elle est finie. Et souvent j'associe la photographie à l'amour. Vous avez une approche amoureuse des gens, une approche aimante, jusqu'à ce quelque part, eh bien, on se retrouve avec une connivence dans le regard, dans l'échange, dans la personne en face qui regarde le viseur. Il m'est arrivé d'avoir les larmes dans les yeux avec une image que j'avais dans le viseur, et de sortir la tête, de regarder au-dessus et de voir que la personne aussi avait les larmes dans les yeux, alors qu'on ne parlait pas la même langue. Donc cette connivence est un langage d'amour. Et finalement, quelque part, quand on appuie sur le déclencheur, pour moi, c'est le paroxysme de l'amour.
Est-ce que parfois certains ont refusé que vous les preniez en photo? Ça arrive?
Ça peut arriver dans une culture où on estime qu'on vole l'âme. Dans ce cas-là, j'explique. Et puis, en même temps, je force pas. Je ne tiens pas à tout prix à photographier. Pour moi, je vous dis, la belle photo, c'est le résultat d'une belle rencontre. Moi, je suis passeur dans mon travail. C'est-à-dire que je prends une photo, mais pour autant, pour que je puisse la prendre, il faut qu'on me la donne. Autrement, je ne peux pas la prendre. Et ensuite, mon travail est de la transmettre, cette photo. Je ne suis que passeur.
Et vous, votre vision de votre métier, vous me l'expliquiez en préparant cette émission, c'est de mettre en valeur le beau qui nous entoure.
Oui, c'est un parti pris. Je pense que le monde est beau. Moi, ça fait 35 ans que j'ai la chance de vadrouiller autour du monde. Je ne rencontre que des belles gens, majoritairement. Alors, il est vrai que je cible les pays. Je ne vais pas dans les pays en guerre, je ne vais pas dans les conflits. Mon parti pris du beau, il ne vient que du fait que j'estime qu'on est manipulé dans ce monde industriel, je dirais pas occidental, mais industriel, généralement, des grandes villes, des médias, et qu'on est manipulé dans nos nouvelles. On nous montre que le négatif, c'est un parti pris aussi de montrer que le négatif, il n'y a pas que du négatif dans le monde. Par contre, peut-être que ça génère l'angoisse et la consommation sur notre démarche, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Et je veux montrer aussi que le monde est beau, qu'il vaut la peine, que en tout cas 80% du monde, de l'humanité, est positive, constructrice. On est tranquille, on a envie de vivre nos vies relationnelles tranquilles, nos amis, notre famille, d'éduquer les enfants, notre culture, nos repères, nos croyances. Il y a la majorité de l'humanité comme ça. Tout le monde a la même aspiration. Une mère qui aime son enfant, c'est la même mère dans le monde entier. Donc, il faut arrêter de croire que le monde est conflictuel. C'est pas vrai, on donne la part belle à des abrutis qui tapent sur la table, à des gens qui sont des frustrés. Il y a ces 20% de la population, mais on leur donne trop la part belle. Si on donnait pas cette part à ces gens-là, le monde serait beaucoup plus paisible. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Les médias y trouvent leur compte aussi. Mais mon parti pris n'est pas de rentrer dans ce jeu-là. C'est de, au contraire, c'est pas de dire que le monde était édulcoré. Il y a des problèmes, il y a bien assez de gens qui se chargent de dénoncer, et c'est bien, c'est important, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi redresser les épaules. Si on veut construire une belle humanité, il faut avoir les épaules qui tiennent la route.
On va continuer cette discussion avec Olivier Folmier, et puis on va aborder la première année que vous avez choisie dans quelques instants, Olivier. Et puis, je rappelle aussi que vous avez reçu un certain nombre de distinctions au cours de votre carrière, et je voulais revenir sur la première qui vous a permis sans doute de vous lancer. Vous avez été lauréat du World Press Photo Contest. Vous nous direz tout à l'heure ce que représente ce concours et pour quelle photo, pour quel travail vous avez eu ce prix. Et puis, je voulais aussi expliquer à nos auditeurs que vous avez été consacré en juin 2008 par le magazine américain Life parmi les 50 photographes phares du monde. Et voilà, c'est pas rien, même si ce ne sont que des distinctions.
Il faut bien des phares sur les caps.
Vous êtes notre phare cet après-midi, c'est jusqu'à gentil. 15h, Olivier Folmy.
Merci.
Let's go, girls. Man, I feel like a woman.
Ici, on remonte le temps. France Bleu Pays de Savoie, juste ici.
Notre invité cet après-midi est Olivier Folmy, photographe, grand humaniste, grand voyageur. Il est avec nous pour nous parler notamment de son dernier ouvrage, Le Bal de l'Univers, qu'on vous présentera dans quelques minutes, qu'on vous offrira aussi. Et puis c'est l'occasion de revenir sur votre parcours, Olivier, de revenir aussi sur deux années qui ont pour vous été importantes. La première que vous avez choisie, c'est l'année 1980. Cette année-là, vous êtes victime d'un terrible accident de la circulation. Et on peut véritablement dire, Olivier, que vous êtes un rescapé.
Enfin, là, si, oui, un accident de circulation. Enfin, j'étais le seul coupable. Hein. Faut être les choses à
leur place. Tout seul. Vous avez perdu le contrôle.
J'ai un ami qui m'a prêté une voiture. J'avais 20 ans. C'était une Golf GTI. C'est sûr qu'à 20 ans, une Golf GTI dans les mains, on ne fait que des conneries. Hein. Et j'en ai fait une. J'ai loupé un virage à Genève, qui passait sur un pont au-dessus de l'Arve. J'ai fait une embardée. J'ai cassé la rambarde. C'était de nuit, au printemps. Cassé la rambarde, la voiture est basculée du pont. Elle a cassé une ligne de tension qui était sous le pont. Et elle a, pouf, plongé 7 mètres plus bas dans la rivière. Et elle a coulé, et moi dedans, boum. Et j'ai pu sortir par les vitres qui étaient cassées dans tous les sens. J'étais encore conscient. Enfin, j'avais une ceinture. C'est la première fois de ma vie que je mettais une ceinture. C'était pas encore obligatoire à cette époque. C'était en 1980. Et j'ai pu sortir en nageant. Donc tout d'un coup, pouf, je me suis retrouvé dans là-haut à faire un crawl de nuit sur cette rivière qui était encore en crue. Bon, j'aurais dû mourir. D'ailleurs, les journaux à l'époque, vous savez, à Genève, il y a ces manchettes, les journaux, ils avaient titré « Il échappe trois fois à la mort ». Et c'est vrai, j'avais échappé à l'accident lui-même, à la ligne de tension, à l'extraction, et puis
et à la
noyade. Ouais. D'ailleurs, la police est arrivée quelques minutes plus tard, quelqu'un a sauté, un plongeur, deux plongeurs immédiatement, parce qu'il ne savait pas s'il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture. Et ils n'ont jamais retrouvé la voiture, ils l'ont trouvée 6 mois plus tard. Donc j'ai vraiment échappé à la mort, oui, bien sûr.
Et vous m'avez dit que vous vous êtes vu mourir.
Ah, j'ai adoré.
Et vous avez adoré ça.
Je dois reconnaître que c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle. Cet accident-là a été une révélation pour moi.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
J'étais mort. C'est évident, quand j'ai plongé dans la rivière depuis le pont, c'est le grand 8, bouffe, c'était foutu.
Et là, il se passe quoi dans la tête?
Eh bien, j'avais une reconnaissance envers la vie, j'avais une gratitude envers tous les êtres que j'ai aimés. J'avais aucune frustration, aucun regret, j'avais un sentiment de plénitude, comme jamais en tant qu'humain je n'avais vécu. J'étais mort. Et la vie était derrière, un peu comme quand vous prenez l'avion, que ça sert à rien de vouloir courir pour embrasser les siens qui sont encore dans l'aéroport. On est dans l'avion, c'est fini. Donc, il faut le prendre sur soi. Mais là, j'avais basculé de la vie à la mort.
Vous n'avez pas paniqué, vous n'avez pas éprouvé de
non,
rien.
Non, parce que, justement, j'avais ce sentiment que c'était... On panique pas parce qu'on est dans un avion, il vient de décoller, qu'on a quitté les siens. C'est fini, c'est une histoire classée. Et bien, c'est pareil. Et j'ai éprouvé ce sentiment de plénitude totale dans la mort. Et j'ai compris que la mort nous accueillait à bras ouverts, quelque part. C'était pas une libération, c'était autre chose, mais qu'il y avait une sérénité, une quiétude que finalement dans la vie on ne pouvait pas en tant qu'être humain retrouver. Et après...
Alors ça vous a changé cette expérience?
Ah, ça m'a changé dans le sens où je me suis tourné vers un monde plus spirituel, bien sûr. Après je suis parti un hiver au Zanskar pour faire une retraite dans un monastère pour tenter de retrouver cet état de quiétude. J'ai compris que...
Et vous l'avez retrouvé?
Oh, vous pensez rien du tout, je suis resté homme. Mais quand même j'ai compris que c'était une dimension, qu'il y avait une dimension en dehors de la vie cérébrale, on va dire, des hommes, qui avait une autre dimension que les moines, qui avait un univers sensible ou des univers sensibles qui nous échappaient, nous, en tant qu'hommes. Je suis persuadé de ça. Et c'est bien pour ça qu'il y a tout ce monde spirituel à la recherche de cet univers-là. Mais je suis persuadé qu'il existe et il m'attire, bien sûr. C'est pour ça que...
Mais alors, s'il attire trop, ça pourrait être dangereux parce que vous auriez pu avoir envie, du haut de votre vingtaine d'années, de retenter des expériences comme ça, un peu proches...
Oui, oui, bien sûr. Oui, mais enfin, après, il faut faire la part des choses.
Il faut aimer la vie aussi.
Vous savez, il y a le LSD qui permet de telles expériences, mais...
Vous avez
non,
essayé?
Non, ça ne m'intéresse pas du tout parce qu'elle n'est pas volontaire. L'intérêt, c'est de maîtriser tout ça, c'est d'y accéder. Mais à partir du moment où ça devient quelque chose... extrêmement extérieur, c'est passif, la conclusion n'apporte rien. Donc c'est une jouissance qui est stérile et qui est destructrice. Parce qu'il y a cette espèce de paradis imaginaire. L'intérêt, c'est la méditation, c'est la spiritualité, enfin, c'est rentrer dans un domaine où l'art, quelque chose qui vous amène à cette dimension sensible pour ouvrir cette sensibilité subtile d'un autre univers. Ça, c'est intéressant quand à partir du moment, c'est un peu comme quand on se dit je vais lire et que j'allume la lumière, j'ouvre l'interrupteur, je vois. À partir du moment où je dis je veux me retrouver dans un univers sensible, spirituel, enfin d'une dimension autre que simplement intellectuelle humaine, on va dire, eh bien, j'ouvre ma lumière intérieure. C'est d'avoir ce contrôle, c'est ça qui est intéressant.
C'est plus compliqué que l'interrupteur.
Ça demande un certain travail, c'est une démarche. C'est ce que font les moines, ça demande une volonté d'être moine, reclus, de ne pas avoir affaire à toutes les, disons, les facilités ou les jouissances, quelque part. Je pense que c'est une facilité, mais jouissance humaine. Il faut une discipline. Et il faut faire la part, il faut faire abstraction de pas mal de choses. Mais on sait pourquoi. Ces moines, ces hommes-là savent pourquoi. En tout cas, par rapport à cette expérience, et c'est vrai que c'est pourquoi j'ai choisi d'en parler, parce que moi je trouve qu'on n'a pas une bonne relation avec la mort.
Dans, c'est encore ce très monde, tabou. C'est très tabou. C'est
on
très
a un héritage culturel aussi. Et, oui, bien sûr qu'il est tabou en Occident. Nos vieux, nos âgés, on les met dans des maisons de retraite. On n'a pas, on n'est pas juste. En Afrique, on est très très critique par rapport à l'Occident. Ça, ça heurte énormément la manière dont on se comporte par rapport à nos personnes âgées. À partir du moment où on n'est plus actif, on ne vaut plus rien. Alors que dans le monde africain, vous avez, c'est la sagesse qui doit être transmise, qui ne peut être transmise que par les ancêtres, hein, enfin par les personnes âgées. Et donc, c'est la référence, c'est celui qui permet de grandir, de transmettre.
On retrouve donc, cette culture dans les contrées himalayennes que vous connaissez bien.
Oui,
c'est plus proche de cette culture africaine où on vénère les anciens.
Non, je dirais qu'en Afrique, c'est là où j'ai appris le plus la relation à l'autre humain. Dans, et même la relation aux ancêtres et aux esprits. Il y a la considération de la globalité de la communauté humaine, de la famille, de le village, du clan, mais en même temps des esprits et des ancêtres. En, dans le monde himalayen et asiatique, moi ce que j'aimais dans le bouddhisme, ou même voir dans l'hindouisme aussi, bien sûr, c'est cette notion, justement, cette approche de la mort à travers la réincarnation, qui fait quoi, on va pas s'attacher du tout à une vie, il y en a d'autres. Enfin, la vie est une succession, même cette vie et de mort, de respiration, d'expiration, d'inspiration. En tout cas, j'aime dépasser l'angoisse de la mort. Et je crois qu'en Occident, j'ai une mère qui m'a beaucoup appris là-dessus. Elle est décédée l'an passé et elle est partie sur un tapis rouge, cette maman. Elle avait très très bien préparé son départ. Elle nous avait toujours dit, nous enfants, le jour où je meurs, vous regardez dans cette caisse, il y a tout. Et un jour, je lui ai dit, maman, autant profiter que je sois vivant pour qu'on voit ça ensemble, c'est beaucoup plus simple. Et on a ouvert cette petite caissette. Elle avait tout préparé. Elle avait même préparé son discours à l'église. Les étiquettes des gens invités. Elle avait fait son faire-part, le discours à l'église. Elle nous avait dit qui fallait contacter. Je meurs à l'hôpital, faut faire ça. Je meurs à la maison, faut faire ça. La police, la mairie, tac, tac, tac. On avait, c'était une marche à suivre. Et là, je dis merci, maman. Parce que elle nous évitait à une maman qui part. C'est dur. Forcément. Et tout d'un coup, on est confronté à toutes ces difficultés pratiques. Elle s'était inscrite à la société crématiste, tout était réglé. Donc finalement, tout le côté pratique, on n'avait qu'à la marche à suivre. Il ne restait plus qu'à assumer la tristesse, mais on n'avait pas le désarroi d'avoir une maman qui part, parce qu'elle-même avait su se préparer à partir, donc il n'y avait pas d'angoisse.
Elle vous a transmis ça et j'imagine que vous faites en sorte de transmettre aussi ces
je trouve
à
que
vos enfants.
C'est important de bien préparer son départ, parce que bien mourir, savoir bien mourir, c'est savoir bien vivre.
On va en reparler tout à l'heure avec cette transmission et parler de vos enfants. Avant cela, on reste sur l'année 1980 quelques instants, puisque c'est aussi le principe de cette émission, Olivier, d'évoquer d'autres souvenirs de cette année-là. Je suis sûre que ça va vous rappeler quelques souvenirs de votre jeunesse. Cette année-là, disparaissait John Lennon, assassiné le 8 décembre 1980 à New York.
John Lennon avait 40 ans. Après 5 ans de silence, il venait de se remettre à la chanson. Le titre de son dernier album, symbolique, Just Starting Over, c'est-à-dire recommencement. Il voulait prendre un nouveau départ. Après la carrière fabuleuse des Beatles, c'est lui qui les avait créés en 1958.
L'un des premiers concerts des Beatles, à Liverpool, à la Caverne, une boîte de nuit devenue aujourd'hui lieu de pèlerinage pour toute une génération. La génération qui avait de 15 à 20 ans en 1960, celle qui, beaucoup plus tard, allait se rassembler à Woodstock. 1963, toute l'Europe et l'Amérique connaissent déjà leur visage, leurs cheveux mi-longs font scandale dans les familles, ils chantent « She loves you », leurs concerts soulèvent des délires, on invente un mot nouveau. La Beatlemania. Deux ans plus tard, la reine Elisabeth va les recevoir à Buckingham. Ils roulent en Rolls, ils gagnent des centaines de millions de dollars. Les chansons, dans lesquelles toute une jeunesse se retrouve, elles ont deux auteurs, John Lennon et Paul McCartney. C'est la fin des années 60. Aux États-Unis, le mouvement hippie prend forme. On crie « L'amour, pas la guerre ». Les Beatles chantent « Tu n'as besoin que d'amour ». Déjà, Lennon commence à faire bande à part. Après une retraite en Inde, il épouse la japonaise Yoko Ono en 1970. Il convoque toute la presse dans un hôtel d'Amsterdam pour dénoncer la guerre du Vietnam. La même année, le groupe se sépare. Lennon et Yoko s'installent à New York. Les 60s sont finis, la nostalgie commence, les Beatles sont déjà un mythe à Liverpool. On débaptise les rues pour leur donner les noms de leurs chansons.
Ça vous évoque des souvenirs, les Beatles, Olivier Folmy ? Vous avez cédé la Beatlesmania ou pas ?
Non, malheureusement pas, parce que j'étais déjà un peu plus jeune quand même. Je devais avoir 14 ans. Remarquez, je suis allé au festival de White à 12 ans. C'était à l'époque, toute l'époque hippie. Hein. Mais bon, c'était par hasard, j'étais pas hippie. C'est que simplement, j'apprenais, mes parents étaient mis dans une famille à Portsmouth, et du coup, j'étais allé jeter un œil avec mon frère et ma sœur. Mais j'avais été fasciné par cette jeunesse, et surtout par la voix de John Baez.
Et puis alors, en 80, les Blues Brothers chantaient ça. Everybody needs somebody, les Blues Brothers en 1980. Est-ce que ça vous évoque des souvenirs aussi?
En 1980, j'étais déjà dans l'Himalaya.
Et donc,
je suis parti en 76 dans l'Himalaya.
Ça veut dire déconnecté un peu de toute cette époque
musicale. Bien sûr, mon chemin était Himalaya. Je passais 10 mois par an en Himalaya.
Déjà à l'époque.
Bien sûr, je trouvais tous les combines pour y rester. Je guidais des groupes, mais j'avais déjà mon chemin tracé vers l'Himalaya. Oui.
On se retrouve dans quelques instants, on va écouter Marc Lavoine, J'ai vu la lumière, et on se retrouve juste après avec Olivier Folmy qui est notre invité. On va parler de son ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle Le bal de l'univers, et que l'on va vous offrir si vous êtes intéressé. C'est le 0820 20 1992 qu'il faudra composer. C'est Roselyne qui vous accueille cet après-midi au bout de la ligne bleue. France Bleu. Jusqu'au 21 décembre, le Festival de cinéma européen anime la Station des Arcs.
Action.
60 films de toute l'Europe à découvrir, 12 en compétition officielle pour la Flèche de Cristal, des invités prestigieux, comédiens, cinéastes, et un focus cette année sur les productions belges.
La tourne.
Le Festival de cinéma européen des Arcs à suivre toute cette semaine sur France Bleu Pays de Savoie et en direct vendredi de 16h30 à 19h avec Norbert Lenôtre.
Elle est bonne, on la garde.
Si l'amour est voyageur,
dernier titre de Marc Lavoine, J'ai vu la lumière, 14h37.
Jusqu'à 16h30, cette année-là, sur France Bleu Pays de Savoie.
On découvre le parcours du photographe Olivier Folmy cet après-midi. Il vient de sortir un tout nouvel ouvrage qui s'appelle Le bal de l'univers, paru aux éditions de La Martinière. J'aimerais justement qu'on parle de ce livre, Olivier, ensemble, ce livre qui raconte l'Islande en photo. Pourquoi l'Islande d'ailleurs? C'est un coup de cœur, l'Islande?
Oui, j'adore l'Islande, bien sûr. Je suis allé déjà il y a 4-5 ans. En fait, je ne suis pas du tout allé photographier en Islande.
Au départ, vous partiez écrire.
Je suis sur un projet d'écriture depuis 2 ans et je vais absolument le boucler. J'avais un fourgon aménagé dans lequel je vivais la plupart du temps et je me suis dit finalement cet été, puisqu'il y a du monde partout en Europe, je me dis moi je vais dans le coin perdu, je vais en Islande, j'ai besoin aussi pour écrire d'énergie un peu vivante. Je pars en Islande, je pars de tout l'été jusqu'à fin septembre là-bas. J'y allais pour écrire, pas du tout pour photographier, mais en fait j'ai pas écrit une ligne. Parce que j'étais happé par la lumière, l'énergie de ce pays, les paysages. Voilà, j'ai rien écrit, j'ai fait que photographier. Je ne suis pas parti là-bas pour faire un livre. En fait, je pars jamais pour faire un livre. Je vis quelque chose et après je le transmets par un livre. J'aime l'objet du livre, parce que ça permet de concrétiser quelque chose. Mais je ne pars pas... comme je disais tout à l'heure, je suis photographe, bien sûr, mais malgré tout, je suis passeur grâce à la photographie. Donc pour être passeur, il faut déjà vivre quelque chose pour le transmettre. Et en Islande, eh bien, j'ai vécu quelque chose qui m'a touché et j'ai eu envie de le transmettre par ce livre.
Alors les photos sont magnifiques. Vous les avez classées dans trois catégories, trois chapitres. Il y a la création, la destruction et la renaissance.
Oui, parce que c'est la vie. Ça. L'Islande, pour moi, c'est un concentré du monde et un concentré de l'univers. J'ai pris conscience de ça, en fait, le jour où je photographiais, puis un jour je me dis quand même, je suis venu là pour écrire, faut que j'aille écrire. Bon, faut que je trouve un coin inspirateur pour écrire. Bon. Et j'avais repéré sur une carte un cap là-bas au nord-ouest, qui était à 300 km de là où j'étais. Bon, il y avait 200 km de route, ok, pas de problème, je suis monté. Après, il y avait 100 km de piste, bien, pas de problème, ok. Pas un chat, évidemment. Croisé sur 300 km, j'ai croisé 2 voitures, c'est déjà beaucoup. Et puis, après, il y avait 20 km de piste 4x4. Alors, mon camion, c'était pas du tout un truc 4x4, mais bon, enfin, en même temps, je me dis, j'ai qu'à rouler tranquillement, on verra bien. Si ça passe pas, j'arrive en arrière. Et voilà. Mais par contre, ce cap-là, il m'interpellait. Je me dis, là, je vais être tranquille. Là, c'est la grande nature. Donc voilà, j'avais décidé d'y aller. J'y suis allé. Et arrivé à cette piste 4x4, eh bien, c'était en fait une piste qui longeait une coulée de lave. Il n'y avait pas un chat, c'était austère. Cette lave, vous savez, cette lave pétrifiée, elle prend toutes les énergies, ça a tout calciné, il n'y a plus rien. C'était austère. Donc moi, je roulais 4-5 km/h le long de cette coulée de lave, puis au bout de 4 heures, je suis arrivé au bout, là, vers mon cap, laborieusement. Alors cette coulée de lave, elle s'arrêtait un peu comme une langue de baleine échouée, là, au bout de ce cap. Et il y avait encore un bout de terre, avant la mer, la grève. Et il y avait un phare automatique. Je suis arrivé là-bas, le bout du monde, du bout du monde. Il y avait la mer qui explosait contre la grève. Il y avait le vent qui ballottait mon fourgon dans tous les sens. J'avais l'impression
ça, vous le racontez, ce texte.
Il rugissait de l'univers, ouais. Ce vent. J'avais des fumerolles qui sortaient de terre. Il y avait des marmites bouillonnantes qui bouillonnaient comme ça. Je suis arrivé là, je me disais, c'est infernal. Moi, avec cette lave en plus à côté. Et puis ce fichu phare qui me fichait un cafard. Parce qu'il y aurait eu quelqu'un dans ce phare, un homme, je serais allé le voir, on aurait bu un canon, je serais avec une tempête. Moi. Ok, je me reliais. Mais là, rien du tout. C'était un phare automatique, j'ai l'impression que c'était un naufragé au bout de ce cap qui appelait au secours, pire que moi. Quoi. Il balayait l'inutile, ce phare, c'était épouvantable. Donc j'ai voulu repartir, je dis, moi je passe pas la nuit là, il n'y a pas question. Je n'étais pas rassuré. Et j'ai voulu repartir, je me suis remis au volant, j'ai allumé les phares qui ont commencé à illuminer ce fumerole qui partait de terre comme ça. Et j'ai eu la pétoche. Je me suis dit, je repars pas dans la nuit à côté de cette coulée de lave, j'avais peur. Donc je me suis mis sous la couette et j'ai commencé à lire Hubert Reeves. Et Hubert Reeves, j'ai toujours un livre d'Hubert Reeves parce qu'il a ce talent.
Grand scientifique astrophysicien, hein,
oui,
franco-canadien.
Magnifique, il a ce talent. J'avais son livre L'univers raconté à mes petits-enfants. C'était tout à fait à mon niveau, c'était parfait.
Mais il a écrit beaucoup de livres de vulgarisation qui sont super d'ailleurs.
Et j'étais transcendé avec ce livre, dans cet univers, parce que je me sentais au cœur de l'univers, complètement. Je me dis, cette Terre, finalement, c'est rien du tout par rapport à cet univers. Mais en même temps, je suis là et je vaux rien, quoi. Puis en même temps, je vaux tout aussi, j'ai une conscience. Hein. Enfin, je me suis vraiment senti au cœur de ce monde de l'univers. J'ai compris que finalement, l'Islande était une partie de cet univers et que je pouvais photographier l'univers en Islande. Et c'est pour ça que j'ai fait le bal de l'univers. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des textes d'Hubert Reeves pour être en cohérence avec ce cheminement. Ce travail photographique est né grâce à l'inspiration que m'a donné Hubert Reeves dans ses livres.
Alors, ce sont des photos magnifiques d'Olivier Folmy, des extraits de textes d'Hubert Reeves. Et à la fin, il y a votre texte là, que vous nous avez en partie raconté, ce sentiment voilà, d'être au bout du monde, d'être un peu coincé avec un côté un peu flippant quand même de la situation, mais qui finalement a nourri... Ensuite, paniquant le travail.
Paniquant et exaltant.
Ouais.
C'est que tout d'un coup, on se rend compte que grisant, il y a une dimension qui nous échappe, hein, et qui est splendide. Et on parlait tout à l'heure de cette notion de vie et de mort. Et je rajouterai une dimension d'amour. Je pense que quand j'étais grisé sur ce cap, j'avais peur, bien sûr, puisqu'à un moment donné, dans la nuit, j'étais dans mon fourgon qui était vraiment ballotté par le vent. Il y avait les vagues qui me rugissaient derrière, tout ça. J'avais peur. Et à un moment donné, j'ai entendu des voix autour de moi, de mon fourgon. J'avais les yeux grands ouverts dans le noir. Je savais qu'il n'y avait personne. Je savais que c'était tout dans ma tête. Et encore, des fois, je pouvais être d'autres esprits subtils. Mais je savais que je risquais rien. Ce n'était pas une peur de ma vie. Je n'étais pas rassuré parce que je me sentais dans un autre monde. Et à un moment donné, j'ai entendu tambouriner à ma porte. Et je me suis relevé, les cheveux droits sur la tête, dans mon fourgon. J'ai dit en français, oui, qui c'est ? J'ai hurlé, j'avais peur. Et en même temps.
Et en fait, il n'y avait personne, évidemment.
Peut-être personne. En tout cas, c'était pas inhospitalier et agressif envers moi. Mais j'ai compris que finalement, il y avait d'autres dimensions. Et j'ai aimé aussi me sentir dans cette position d'humilité, d'humain, à comprendre que je n'étais rien dans ce monde. Et j'ai eu tout d'un coup aussi ce sentiment d'exaltation, d'amour, de faire partie de quelque chose de très grand.
Alors, il photographie aussi bien qu'il parle. Le livre s'appelle Le bal de l'univers, signé Olivier Folmy aux éditions de La Martinière. Et si vous voulez repartir avec, c'est le cadeau qu'on vous fait. Là, quelques jours de Noël, c'est le cadeau que vous fait aussi Olivier. 0820 20 1992 pour nous joindre. On retrouve Olivier après Georgie Fame et Sunny pour nous mettre un petit peu de soleil après cette description austère de l'Islande.
Merci Sylvia.
Joyeuse fête.
Sunny, well yesterday my life's filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. Oh, the dark isn't done. Yeah, my sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love
Georgie Fame avec Sunny sur France Bleu Pays de Savoie.
Ici, vos après-midi sont plus belles. France Bleu Pays de Savoie, vue d'ici.
On voyage cet après-midi avec Olivier Folmy qui est avec nous, qui est photographe, qui est venu nous parler de son dernier ouvrage et puis évidemment de son parcours, de sa vie. La deuxième année que vous avez choisie, Olivier, c'est l'année 1988, une année importante pour vous puisque cette année-là, vous êtes devenu avec votre compagne, Daniel, c'est ça, hein, Daniel, hein, que j'écorche pas son prénom. Vous êtes devenu parent de la modernité, vous allez nous expliquer cette expression, de deux enfants du Zanskar. Alors le Zanskar, on va rappeler rapidement où situe le Zanskar. Parce que là, on est dans des contrées himalayennes quand même assez reculées.
Oui, oui, à l'époque surtout. Le Zanskar, c'est une région qui est à 3500 mètres, 4000 mètres dans l'Himalaya indienne, qui est surtout qui a la particularité d'être coupée par la neige 8-9 mois par an. Non, 7-8 mois par an. Enfin, isolée du monde. Et à l'époque, quand je suis allé au Zanskar, toutes les toutes premières années, à l'année 80, le Zanskar était peine ouverte aux étrangers. Je suis allé plus ou moins la première année où il s'ouvrait. Et quand j'arrivais là-bas, les villageois couraient vers moi. Ils se mettaient à quatre pattes pour regarder mes chaussures. Ils étaient fascinés de la qualité de mes chaussures. Ils se disaient, mais ce gars-là...
D'où il vient ?
Mais il est fort pour faire des chaussures lui-même comme ça. Il ne se rendait pas compte. Il touchait mes cheveux. Il m'appelait Goserpo, ce qui veut dire tête d'or. Donc voilà, j'arrivais dans un monde... étrange pour moi, nouveau, mais en même temps j'étais étrange pour eux et nouveau. Donc c'était fantastique. Et c'est là où j'ai rencontré Lobzang, qui était un caravanier, un paysan de là-haut. J'avais une relation avec Lobzang de connivence spontanée, c'était un frère très vite. On était sous les étoiles, je parlais pas encore la langue, et puis on était sous les étoiles le soir autour du feu, puis on se disait rien, mais on était bien ensemble. Donc on a construit d'année en année une relation d'amitié. Un jour,
parce que vous êtes retourné hein, aux Zanskar, vous avez vécu même aux Zanskar.
Oui, j'y retournais tous les étés, je guidais des groupes, et Lobzang était en caravane avec les chevaux, pour marcher, pour traverser l'Himalaya. Et un jour, j'ai proposé à Lobzang de venir avec moi derrière le Zanskar. Il n'était jamais sorti de ses vallées. Il pensait que la terre n'était faite que de montagnes. Et donc, je lui ai fait découvrir, on a marché 12 jours pour arriver dans un bazar, enfin, avec une rue, hein, pas plus. Mais il a connu l'électricité, l'eau courante, c'était de la magie pour lui. Il n'a jamais vu de fruits, de légumes, des camions, enfin tout ça, tout ce monde, il ignorait. Et il me disait en rentrant, quand il est rentré à pied de chez lui, enfin à pied, attendez, il y a 12 jours.
Oui.
Il m'a dit, mais c'est chez toi, c'est magique, magique. Il pensait que c'était chez moi. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour que mon fils connaisse ça? Et je lui ai dit, mais ton fils, mets-le à l'école. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est que l'école? Donc je lui ai expliqué. Et Lobzang était fasciné. Il me dit, fantastique, je voudrais que mon fils soit à l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, ben on va l'inscrire à l'école. Et Motoup avait 8 ans. Et donc je l'ai inscrit dans l'école qui était la plus proche, qui était à 150 km de là, au Ladakh. Il est resté 3 ans, pensionnat, il ne pouvait pas remonter chez lui.
Évidemment.
Parce que c'était trop loin, les vacances, l'été, il y avait 15 jours, c'était pas possible pour remonter au pays. En hiver, il y avait 2 mois de vacances, mais il y avait la neige, le pays était bloqué. Et au bout de 3 ans, on a ramené Motoup avec Daniel, on l'a ramené au pays par le fleuve gelé, qui était le seul chemin possible pour monter là-haut. Et on a retrouvé la famille. Alors, le fleuve gelé, c'est 2 semaines de marche, par moins 40, sur des glaces, dans un canyon, dans les entrailles de la terre. Enfin, c'est une vraie aventure, mais c'est extraordinaire. Mais en même temps, on va dire, c'est un vrai chemin d'aventure. On arrive là-haut, dans les neiges, la famille qui retrouve cet enfant qui a 3 ans d'éducation, d'instruction, qui savait lire et écrire. C'est plus le même. C'est le seul du village à savoir lire et écrire. La mère était subjuguée. On n'a pu rester que 5 jours là-haut, parce qu'il fallait redescendre par le fleuve 12 jours pour retourner à l'école. Et avant de partir, au bout du 5e jour, la maman s'est levée et nous a dit, Olivier, Daniel, je vous remercie de ce que vous avez fait pour mon enfant. J'ai une faveur à vous demander, donnez cette chance à ma fille aussi. Et donc nous sommes partis avec Motoup, le garçon, Diskit avait 8 ans, la petite, sur le fleuve gelé pour les emmener à l'école. Et en partant, la mère nous a dit, je vous confie mes enfants, mais ce sont les vôtres aussi. Et donc du jour au lendemain, nous sommes devenus parents.
De deux enfants.
De ces deux enfants qui ont toujours eu 4 parents. J'étais au Zanskar là tout l'été passé.
Ils font partie de votre vie, vous retournez les voir.
Ce sont vos enfants. Ce sont mes enfants, comme
même
ils sont
si
les enfants de
Zanskar.
Vous savez ce que j'aime dans cette histoire, c'est que je n'ai aucun papier. Nous n'avons aucun papier. Tout est de cœur. C'est une histoire d'amour qui a duré 30 ans. Et nous étions au mariage de Motoup il y a 3 ans, au mariage de Diskit il y a 2 ans. Et il y avait 4 parents. Et ça,
et c'est très beau.
C'était une histoire d'amour, ouais. Ça, c'est l'histoire d'un amour de vie. Et c'est pour ça que j'ai choisi de raconter cette histoire cette année-là, dans 1988.
C'est aussi une belle histoire avec vos deux enfants du Zanskar. Il faut savoir aussi que vous avez adopté deux enfants tibétains.
Tout à fait. Hein,
puisque vous êtes parent de quatre enfants, deux du Zanskar et deux tibétains.
Sûr.
Par contre, les enfants tibétains, vous les avez ramenés et ils vivent avec vous
bien
ici.
Sûr, bien sûr, là, on a eu un autre, notre chemin avec Ivan et Pema, qui sont deux enfants d'origine tibétaine, qui eux étaient censés être orphelins au départ, que nous avons, c'est la sœur du Dalai Lama qui nous a confié ces deux enfants à l'orphelinat de Dharamsala. Et nous avons ramené ces deux enfants ici avec la promesse dans le monde tibétain que nous n'allons pas déculturer complètement ces enfants. Donc nous avons conservé une biculturalité chez ces enfants, nous les avons ramenés souvent dans ce monde tibétain, ce qui n'a pas été facile pour Ivan et pour Pema de cohabiter entre deux cultures, de savoir à quelle culture ils appartenaient. Et alors par rapport à Ivan et Pema, qui est aussi bien sûr que ce sont deux de mes quatre enfants, je n'ai pas mesuré la difficulté que c'est d'être adopté en Occident. C'est beaucoup plus difficile. Matoubinskit, on n'a pas bénéficié d'un amour familial, d'une relation familiale installée, on va dire, parce qu'ils étaient en pensionnat la majorité du temps. Ils venaient ici en Europe pour les vacances, nous allions les retrouver. Mais pour Ivan et Pema, c'était plus difficile parce qu'ils devaient cohabiter avec le monde occidental, qui n'est pas forcément facile à vivre.
Alors, puisqu'on parle de vos enfants, on a un coup de téléphone là, d'une personne qui voudrait dire quelques mots, qui connaît
bien
vos enfants.
Ah oui.
Elle s'appelle Anne-Marie, elle est à Coponex. Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour.
Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Olivier.
Alors, dites-nous qui vous êtes Anne-Marie.
Oui, alors je suis l'ancienne institutrice d'Ivan et Pema.
Ah oui, oui, bien.
Je suis
bien
ravie
sûr.
Olivier. Ravie de pouvoir vous parler et puis de témoigner aussi de, comment dire, en fait, je peux surentirer sur ce que vous venez de dire, ça n'a pas été facile pour les enfants, effectivement, de vivre dans cet espace qui n'était pas du tout le leur. Mais je pense que ça a été une très belle histoire pour moi,
ah oui.
Pour vous aussi,
pour moi personnellement, qui les ai eus en classe. Si j'ai pu apporter ma petite goutte d'eau dans leur vie, c'est
bien
ce
sûr.
Que je souhaite.
Bien sûr, je crois que ces enfants, ils ont été entourés d'amour. Chacun a fait ce qu'il a pu, mais on les aimait, ces enfants, tout le monde les aimait. Spécialement quand on était à Coponay, c'était une vie de village, il y avait une compréhension, ils étaient complètement intégrés.
Exactement.
Et il y avait beaucoup d'amour, c'est la beauté de la vie du village.
Oui.
Et ça me fait plaisir, Anne-Marie, de témoigner de ça.
Aussi.
Parce
Alors,
que ça nous relie
aussi
à des belles choses, bien sûr.
Oui, je voulais aussi témoigner de la beauté de ce que vous faites.
Oh.
C'est vraiment très beau. Alors, quand j'ai appris que vous aviez fait une trentaine d'ouvrages, j'en ai qu'un tout petit peu.
Eh bien, Marie, vous savez quoi ? Malheureusement, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais vous allez repartir avec le dernier sur l'Islande et Olivier va vous le dédicacer. D'accord ?
C'est formidable, mais j'aimerais bien qu'Olivier me le dédicace.
Évidemment,
avec plaisir. Il va le faire juste après l'émission, c'est promis.
Oui.
Ah, c'est super.
Merci beaucoup, Anne-Marie.
Merci.
Je suis désolée. On arrive déjà à la fin de l'émission. Olivier, la prochaine fois, on fera 3 heures.
Je vous embrasse, Anne-Marie.
Daniel et la famille.
Merci. Au revoir.
Au revoir, Anne-Marie. Olivier, merci d'avoir été avec nous.
C'est extra la radio.
C'est génial, c'est magique la radio.
Ah, quel plaisir.
D'avoir Anne-Marie qui nous fait son petit clin d'œil avec ses souvenirs de vos enfants.
Et puis vous écoutez, qui vivent avec nous. Non, c'est un grand bonheur.
On a passé un bon, super moment avec vous, Olivier. Vous venez nous voir avec plaisir pour 3 heures d'émission au moins. Non, mais c'est vrai, on a plein de choses à raconter avec vous encore. On va se quitter avec John Lennon, on en parlait tout à l'heure.
Attendez, il faut qu'on se quitte avec les projets.
Alors, très vite aussi vos projets, parce qu'il y a plein de choses. Alors, il y a un bouquin qui est en écriture, il y a des conférences qui vont avoir lieu.
Oui, ça, j'aimerais le dire parce que.
Et vous serez au Grand Bivouac l'année prochaine.
Alors, je sais pas si je peux me permettre, s'ils vont m'en vouloir au Grand Bivouac, mais on avait ce projet et il a été confirmé il y a la semaine passée. Comme quoi, j'ai une conférence que je suis en train de préparer, une conférence diaporama. Et au Grand Bivouac, ils m'ont confirmé que je la présenterai en avant-première l'année prochaine. Donc, ça fait très plaisir et d'être au Grand Bivouac et de pouvoir l'annoncer. Et puis voilà,
et France Bleu est en partenaire du Grand Bivouac. On vous donnera rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Puis venez nous voir dès que le livre d'histoire que vous êtes en train d'écrire est terminé. Ce sera avec plaisir.
Merci Sylvia.
On se quitte avec John Lennon et Imagine.
Try.
John Lennon, Imagine, pour terminer cette émission avec Olivier Folmy.
France Bleu.
Sur les routes de nos pays de Savoie, nous n'avons plus l'accident qui était en cours sur la 43. Néanmoins, il perdure encore un bouchon, hein, mais c'est en train